much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour, peuple de Prune.
Bienvenue dans la classe des arpèdes. Sortez vos stylos bics et vos cahiers à petits carreaux en 21-29-7. Le cours va commencer.
Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, mes priorités sont claires. Élever le niveau, faire respecter les droits et les devoirs, bâtir une école qui émancipe et qui élève.
Non, Gabriel, on ne l'avait pas compris. Si c'était ça, tes intentions, elles ne sont pas franchement claires. Parce que pour monopoliser le débat avec des histoires de robes longues, il y a du monde. Mais quand il s'agit de permettre d'enseigner dans de bonnes conditions humaines et matérielles, ah bah, il n'y a plus personne. Merci d'avoir relevé la plaque.
Vous l'aurez compris, en cette période de rentrée, on a décidé de vous parler de l'école, de ses élèves, de ses professeurs et du système qui les maltraite. Nous avons nommé...
l'éducation nationale, ou l'éducnat, comme disent les jeunes.
Je ne pense pas que les jeunes disent ça, mais ok. Quoi de mieux pour en parler que d'inviter une prof? On a donc parmi nous aujourd'hui Candide.
Salut Candide.
Salut, salut.
On est très contente de te recevoir aujourd'hui. Tu es professeure d'histoire géo à Saint-Denis, représentante syndicale chez Sud pour Union syndicale solidaire. Et tu as dans le passé été prof en REP+ à Trappes. Pour que ce soit clair pour nos auditeuristes, une zone REP+, c'est un réseau d'éducation prioritaire plus qui présente davantage de difficultés sociales que les REP, eux-mêmes présentant davantage de difficultés que les zones hors éducation prioritaire.
Alors, sur les conseils de notre invité, nous nous sommes partagés la lecture d'un livre qui donne du baume au cœur, qui rappelle quelle flamme anime celles et ceux qui enseignent et accompagnent les élèves. C'est l'ouvrage « Trop classe, enseigner dans le 9-3 ». Ça me fait rire parce que quand j'ai lu le livre, j'étais allongée dans mes petits draps Vichy Rose, dans ma petite baraque à Chantenay, et j'avais absolument zéro street cred en prononçant 9-3 à chaque fois qu'il intervenait dans le livre. Alors que je ne sais pas si les gens normalement disent 93, mais... pour moi, c'est gravé 9-3, quoi.
MTM.
C'est ça. Il est écrit par l'institutrice et directrice d'une école alimentaire à Bobigny, Véronique Decker. Sachez que Léo et Nora m'ont empêché de faire une blague sur le nom de famille de Véronique Decker et sur sa destinée de prof. Voilà, je vous en veux. Il est paru en mars 2016 et ce livre est sorti aux éditions Libertalia. Comme d'habitude, nous sommes partagés la lecture de ce livre selon la méthode de l'arpentage. Pour celles et ceux qui découvrent l'émission et le concept d'arpentage, c'est une méthode de lecture collective qui consiste à se partager en bouquins entre les participants, participantes. Chacun, chacune lit sa partie, puis on met tout en commun et on discute du sujet. Enora, brave arpète, a eu cette fois deux parties à faire pour cette émission. C'est donc elle qui va commencer à nous parler du livre, puis elle reprendra la parole un peu plus tard.
Et oui, c'est vrai, Anise, j'ai eu deux parties à lire car Lilia, notre co-animatrice historique, nous quitte pour quelques mois, le temps d'aller explorer l'Amérique du Sud. On la retrouvera au printemps et en attendant, on lui souhaite un bon voyage et nous, on part explorer les méandres de l'éducation nationale avec Véronique Decker et son livre « Trop classe ». Donc Véronique Decker, elle se présente dès l'intro de son livre comme institutrice depuis plus de 30 ans et directrice d'une école élémentaire depuis 15 ans. L'école dont elle est directrice a la particularité d'être une école Freinet. Les écoles Freinet, c'est des écoles avec une pédagogie alternative qui se base sur la coopération, l'autonomie, l'expérimentation. C'est une définition très très brève parce que ce n'est pas trop le sujet du livre, mais je vous encourage à aller faire vos recherches parce que c'est vraiment très intéressant comme sujet. Donc ce livre, il prend la forme d'une succession d'anecdotes très courtes que Véronique Decker va piocher tout au long de sa carrière, je pense. J'ai pas l'impression que les histoires soient agencées par rapport à un ordre, un plan particulier. si ce n'est un ordre chronologique, parce que du coup, au tout début, moi, j'avais que des histoires qui avaient l'air de correspondre au tout début de sa carrière. Et donc ensuite, elle va sauter d'une situation à une autre sans forcément faire de lien logique, ce qui fait qu'elle va raconter, par exemple, une situation impliquant un élève avec un handicap particulier, puis nous raconter brièvement comment elle a eu un déclic sur une méthode d'enseignement de la lecture grâce à une collègue, pour ensuite passer à pourquoi elle désapprouve l'usage du pronom impersonnel « on » pour s'adresser à une classe. Du coup, ça donne un peu de frustration, parce qu'on ne va jamais vraiment au fond du sujet. Par exemple, j'étais bien frustrée sur l'anecdote numéro 7 qui parle de l'architecture des écoles et comment ça peut impacter la façon d'enseigner ou le lien social entre les élèves. C'est un sujet qui est tout juste effleuré, mais j'aurais bien aimé en savoir plus parce que je savais qu'une école avec des fuites d'eau au plafond, c'est pas ouf pour l'apprentissage, mais j'avais jamais vraiment réfléchi à ce que l'agencement d'une cour d'école pouvait favoriser ou entraver. J'aurais bien voulu en savoir plus. Mais donc, je pense que c'est pas tout à fait le but de son ouvrage de rentrer dans ce genre de détails. L'objectif, je pense, est plutôt de brosser un portrait très global du métier d'enseignant dans toutes ses joies et ses difficultés, en mettant en exergue tous les détails qui peuvent impacter la qualité de l'enseignement. En fait, montrer que l'éducation, c'est beaucoup plus subtil qu'une histoire de nombre d'enfants par classe ou de programme scolaire, que l'école et le personnel encadrant sont une véritable interface entre les enfants et le monde, les enfants et leurs familles, les familles et l'État. Bref, que l'école ne sert pas que à former de bons petits salariés prêts à faire gonfler le PIB du pays. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails de ce que j'ai lu, je préfère vous faire un petit teaser en guise d'intro et laisser Candide prendre le relais pour assouvir votre curiosité.
Oui, c'est très bien présenté, je trouve. Enfin, c'est très complet comme présentation, ce que tu as pu faire. Moi, à l'inverse, je vais, pour résumer un petit peu la partie que j'ai eu à lire, donc, qui est la deuxième partie, je crois, si on peut parler de partie, puisque comme tu l'as très bien dit, c'est un journal d'enseignement. Je préférerais partir sur une citation qui m'a vraiment... Alors là, je l'ai surlignée dans le bouquin, c'est horrible, mais c'est m'a vraiment voilà, alertée. Elle dit, je cite, « Enseigner, c'est un acte politique fort qui dit à chaque enfant qu'il a le droit d'accéder au savoir et à en tirer un pouvoir sur le monde. » c'est une phrase que j'ai trouvée très forte et en fait, elle l'illustre très bien. Elle montre qu'elle a pu prendre parfois un plaisir fabuleux à observer des enfants prendre possession de ses savoirs. Et elle prend l'exemple en fait, d'une classe transplantée. Alors en fait, elle raconte et elle explique qu'une classe transplantée, c'est en fait le mot compliqué pour dire classe de mère. En gros, c'est au lieu de faire cours dans ma salle, je vais les emmener pendant 2 semaines, 3 semaines, une semaine, au bord de la mer, faire classe un peu hors les murs. Et donc, elle installe sa classe et en fait, elle raconte ça dans une partie que j'ai trouvée très, très belle, qu'elle a appelée les 4 éléments. Donc là, je suis page 57. Et en fait, en lisant, j'ai ressenti la satisfaction qu'elle a pu à observer les enfants à la mer, quoi. Donc, elle en parle comme ça. Je cite, « Ce dont manquent le plus les enfants des cités, c'est du contact. À la campagne, les enfants ont l'occasion d'aller davantage sous la pluie, à la rivière, au lac, connaissent l'eau sous ses différentes formes. Les enfants des riches qui partent en colo font des veillées de feux de camp, des repas trappeurs, des mini-feux d'artifice et des soirées cheminées dans la maison de famille à Noël. C'est dans les familles cultivées ou dans les familles de cultivateurs qu'on laisse les enfants patouiller, modeler, toucher la terre et l'argile. Et les enfants des cités connaissent davantage les particules fines que l'air pur des montagnes. C'est pour cela que j'ai toujours pensé qu'il était indispensable de les emmener en classe transplantée, leur donner accès aux 4 éléments de nature pour leur permettre de créer un lien avec le plus grand territoire possible. » Fin de la citation. Et en fait, moi, j'ai adoré parce que je trouve que chaque mot est posé, c'est presque poétique, en fait. Et en plus, ça m'a parlé, du coup, parce que ça m'a fait penser, j'aurai peut-être l'occasion de développer après, mais ça m'a fait penser à une petite aventure que j'ai testée cette année, une aventure hors les murs aussi, avec mes élèves. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de raconter, mais enfin, voilà, ça, c'était c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus beau dans ma... Ouais, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus beau dans ma partie. Donc, sur le côté un peu joie d'enseigner que tu as évoqué tout à l'heure. Et puis sinon, là, la deuxième anecdote qu'elle raconte dans ce petit journal d'enseignement évoque le côté beaucoup plus sombre, en fait, du métier. Elle revient sur le fait que, elle qui est enseignante à Bobigny, hein, donc 9-3, hein, mais à Bobigny plus précisément, elle a enseigné plus de 20 ans, je crois. Non, même plus de 30 ans.
Une trentaine d'années,
À Bobigny. Elle dit, bon, bah voilà, le problème, en fait, en enseignant dans ces quartiers populaires-là, c'est que les services publics d'éducation, bah, ils y sont mal menés, les moyens, ils s'amenuisent. Et donc, sauf que le problème, c'est que ces phrases-là, on les entend, en fait, tout le temps. Oui, il y a moins de moyens, c'est comme l'hôpital, etc.
Ouais.
Et elle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est donner des exemples concrets, quoi.
Ouais, carrément.
Alors, dans ma partie, elle parle concrètement d'une journée de rentrée, et effectivement, c'est au début de sa carrière. Et c'est une journée de rentrée un peu différente, puisqu'elle accueille dans sa classe une enfant, donc elle appelle Félicie, hein, dans le texte.
D'accord.
Et qui est une enfant rome. Et le jour de la rentrée, donc, elle doit distribuer des certificats de scolarité aux parents. Sauf que le lendemain, donc j'étais surprise de la rapidité de la réaction donc de cet appel, vous allez voir, hein, mais elle est contactée par la préfecture, qui demande à ce que le certificat qu'elle ait distribué la veille soit certifié à nouveau. Sous-entendu, est-ce que c'est vraiment vrai que la famille, les parents de Félicie emmène bien Félicie à l'école? Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils essayent
double standard,
de taxer l'État et en fait, elle apprend à la même occasion, par ce coup de fil, que Félicie, elle est menacée d'expulsion. Et en fait, elle essaye de tout faire, de contacter l'inspection académique pour soutien auprès de la préfecture. Et l'inspection académique refuse de faire certifier le certificat. Donc déjà, l'expression... en disant, bah non, vous êtes la seule, madame, en tant qu'institutrice, à pouvoir constater la présence de l'élève en classe. Donc, en fait, c'est très bizarre, parce que du coup, enfin voilà, il n'y a aucun soutien, on voit bien par cet exemple, hein, vivant et dramatique, que là, dans ce cas-là précis, l'État, par le biais de l'éducation nationale, va en fait prolonger des lois qui vont être racistes, discriminantes, violentes, pour des familles, et là pour des mineurs, en l'occurrence Félicie est une élève de CE1. Donc voilà, c'est assez moi ça m'a touchée parce que quand j'étais étudiante je faisais partie d'un collectif de sans-papiers et donc on les a vus, hein, les expulsions des sans-papiers, les rafles jusque dans les écoles et les universités, quoi. Voilà pour les deux passages qui m'ont le plus marqué de ma partie, du coup.
Trop bien, merci beaucoup. Du coup, c'est re-moi qui prends le micro, mais promis, après, Annelise, je te laisse parler. En fait, j'ai un peu décidé pour cette deuxième partie que j'avais à lire, Candide, de faire un peu comme toi, de parler de deux anecdotes différentes qui m'ont fait dire que c'était vraiment un roller coaster émotionnel, ce livre, parce qu'on passe vraiment d'histoires très joyeuses, comme page 70, l'histoire, le conseil des élèves qui raconte comment les enfants s'impliquent dans la création de projets pour leur école, dans la gestion de conflits, par des conseils, qui sont trop contents d'appliquer leurs leçons de maths pour établir un budget, pour savoir s'ils peuvent prendre un hamster pour leur classe. Donc vraiment des histoires très solaires qui donnent trop envie d'être dans la classe de Véronique Decker et qui donnent trop envie d'être prof. Et juste après, elle va raconter quel signe elle a vu chez un enfant qui lui ont suggéré que peut-être cet enfant vivait des violences intrafamiliales. Comment elle a ouvert le dialogue avec la maman qui a fini par lui raconter que bah oui, en fait, le papa est violent, les a chassés de chez elle, elle et sa fille, que maintenant elle dorme à la cave parce qu'elle avait gardé la clé de la cave de l'immeuble. Enfin, vraiment des histoires qui prennent aussi beaucoup aux tripes sur des vécus difficiles d'enfants, de familles. Et donc, en 4 pages, parce que les histoires font en général 1 à 2 pages, en 4 pages, on a une histoire super enthousiasmante et une histoire qui fout la rage, en fait. Mais c'est à chaque fois des histoires qui nous font réaliser qu'il faut donner des moyens humains et matériels à l'école, pas juste pour apprendre à lire aux enfants, mais aussi pour permettre aux enseignants de jouer ce rôle de vigie aussi, pour s'assurer du bien-être des enfants à l'école, en dehors de l'école, et à l'avenir pour eux, pour devenir des adultes fonctionnels, épanouis dans leurs relations sociales et pas juste des bons comptables. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment la force que je trouve à ce livre, c'est utiliser tous ces petits cas particuliers qui, par l'exemple, nous font réfléchir à l'état de l'éducation nationale, ce qu'il lui faudrait comme mesure et qu'est-ce que c'est que d'être prof et quel est le rôle de l'école. Je suis très contente que tu nous aies suggéré ce livre-là, parce que pour le mois dernier, l'émission dernière, on avait lu un livre qui était un petit peu ardu. Et là, ça se lit tout seul parce que c'est très abordable déjà. Et en plus, c'est passionnant, donc ça se lit d'une traite. Voilà.
Ouais, ça se lit très vite.
Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie. Donc, Annelise, vas-y, je te laisse clore.
C'est vrai que ça se lit très bien et c'était super, ouais, parce que c'est vraiment comme tu disais, Candide, on l'entend tout le temps et partout, suppression de postes, manque de moyens, manque de personnel, comme tu disais, pour l'hôpital, pour l'éducation nationale. Et c'est des exemples qui sont très sincères et qui sont très ancrés dans la réalité. Qui, du coup, vont mettre tout de suite des images sur des mots qui glissent sur nous, en fait, parce qu'on les entend tellement que ça veut plus rien dire. Et puis, on a l'impression que, de toute façon, ça continue quand même malgré toutes ces années. Donc, c'est assez important de s'y pencher et de partager le quotidien de Véronique Decker, du coup. Moi, j'avais la dernière partie d'Arpentage qui commence avec le chapitre « Nuit à l'école ». Du coup, je réalise le fonctionnement du livre à ce moment-là, donc par petits chapitres. Moi, j'avais dit par petites nouvelles, mais effectivement, journal, c'est vraiment le mot. En fait, elle va raconter quand elle a ouvert l'école la nuit à deux familles de Roms menacées d'expulsion. Leur squat étant tout près de l'école et l'élève était, je crois, scolarisé chez eux. Donc peut-être un lien avec l'élève dont tu parlais, Candide.
Ah oui.
Donc tout de suite, pour moi, le ton est donné. Il y a un livre avec beaucoup d'indignation et au moins deux fois plus d'humanité. Je suis pas mal marquée par ce qu'elle va le dire, à quelqu'un, je ne sais plus, qui l'appelle pour lui signaler que ce qu'elle fait est illégal. Et elle lui dit, de manière assez naïve, ben oui, effectivement, c'est illégal, mais des enfants qui dorment dehors aussi, c'est illégal, non ? Donc, j'ai choisi ce qui me semblait le moins grave des deux situations illégales, quoi. J'ai eu des histoires émouvantes, mais j'ai quand même eu surtout des chapitres assez durs, et c'était... un vrai constat d'échec qui était dépeint quand même. Elle dénonce les conditions précaires de tout ce que l'école rassemble, hein, donc salariés et fonctionnaires, les élèves bien sûr. Elle parle d'abandon des enfants des quartiers des pauvres à des conditions de vie indignes. Elle parle beaucoup d'injustice et elle va nommer Zayad et Bouna qui sont décédés pendant les émeutes. Pardon ?
Oui, Zayad et Bouna. Ouais. Pardon.
Non, du tout. Je t'ai dit que j'avais peut-être mal prononcé. Qui sont décédés pendant les émeutes de 2005. Ou encore de Slavi, qui est un jeune élève, et j'avais très envie d'aller voir, il y a apparemment beaucoup d'interviews de lui, et ça donne très envie d'aller les voir. Un jeune élève qui est très conscient de la manière dont l'État traite les Roms pour rendre leur quotidien le plus misérable possible afin de les pousser vers la sortie. Parce qu'étant donné qu'ils sont européens, ils peuvent pas les faire partir autrement que comme ça. Donc c'est vraiment la plus grande des lâchetés et un terrible gâchis. Elle parle avec beaucoup de sarcasme, du coup c'est quand même aussi drôle des fois, et c'est piquant. Ça nous ferait presque rire de nous-mêmes de nous faire croire à la mauvaise pub du 9-3 qui nous effraie tant, même si c'est logique, bien sûr, d'avoir peur de quelque chose qu'on diabolise sans cesse dans les médias. Et même si j'imagine que cette peur est parfois, est légitime aussi, parce que oui, ces quartiers pauvres sont perdus, comme elle le dit, et elle le rappelle, le service public là-bas ne fonctionnait plus bien avant que des jeunes de quartiers pauvres ne fassent brûler leurs bâtiments. Bien avant ça, ça faisait longtemps qu'il s'y passait plus rien. Elle nous parle aussi de double standard. C'est ce que j'ai dit un moment dans ta partie, Candide, parce que c'est tellement choquant, de sanctions à deux leviers, en fait, ou de vérifications, comme pour ta partie, à deux leviers, en fonction de la couleur de peau du fautif, avec des exemples, du coup, qui font mal au cœur de sincérité. Et ce que je lis me raconte principalement des reculs sociaux et la résignation du peuple qui les subit. Je ne vais pas trop revenir sur la pédagogie Freinet. Moi aussi, elle en a parlé. Ça semblait assez important et intéressant. Après, Nora, t'en a un peu parlé aussi. Mais voilà, effectivement, de la coopération, le caractère social et créatif de l'enseignement qu'elle semble tenir vraiment très, très à cœur dans le cadre d'un établissement public. Et c'est la fin de mon arpentage.
Bien, merci Annelise et merci Candide pour cet arpentage. On a bien travaillé, maintenant c'est l'heure de la récré avant de passer à la partie discussion. Et comme c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes,
non.
On se met un petit diams, la boulette.
Non.
Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans nos.
ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets,
sortez les briquets.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. J'suis pas la mairie, j'suis qu'une artiste en devenir, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse, je le macare, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un goût de foulec, foulec chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
Je marche dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. J'suis pas les secours, j'suis qu'une petite qui se débrouille, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime juste parce que ça fait zizir. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'Al Capone, comme un goût de hardcore,
hardcore
dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec, foulec chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais. On est tôt, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est tôt, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non.
Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de démé des magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coucou les chambres des jeunes, y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un goût de chouille saoulé de tout ce qui se déroule, y'a comme un goût de foulette, de boulette qui saute dans la foule.
Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non, génération, non, non.
Vous êtes de retour dans l'émission Les Arpètes, juste avant cet énorme tube de Diams. Nous avons présenté le livre Trop classe de Véronique Decker avec notre invitée Candide qui est, je le rappelle, prof d'histoire géo et représentante syndicale chez Sud.
C'est oui. Quoi les élections régionales ? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
Ah, quel bonheur de l'entendre à chaque fois. Du coup, Candide, avec l'arpentage de ce bouquin, on a pas mal parlé de la réalité du terrain lorsqu'on est prof, qui ne semble pas toujours facile, et on dirait que l'État joue à ne pas regarder les vrais problèmes. La dernière réforme en date, c'est le pacte enseignant. Je vais résumer pour les auditrices un petit peu ce qu'elle implique, et tu nous diras après ce que tu penses de ce sujet, comment tu le vis, comment le vivent tes collègues. Oui. Je vais essayer de pas donner mon avis trop. Donc, le pacte enseignant, sans donner mon avis, ça semble être la petite sœur de Travailler plus pour gagner plus, qui propose aux professeurs volontaires d'assurer à l'année des missions complémentaires contre une augmentation globale du salaire annuel, qui ne compte pas pour la retraite, hein, faut pas abuser quand même. Les missions, ça va être des remplacements, le tout apparemment se fait dans des établissements tiers, donc pas l'établissement du professeur. Donc, remplacement, soutien aux élèves en difficulté, aide aux devoirs, des activités exceptionnelles du genre orientation professionnelle ou d'autres activités exceptionnelles à l'imagination, enfin tout est laissé à l'imagination des professeurs. Voilà, et c'est vraiment pas facile de dire tout de suite ce que j'en pense, mais en gros, c'est ça, cette nouvelle réforme. Donc, quel est ton regard sur ce pacte en tant que personne directement concernée?
Alors, merci pour ta question. Du coup, il y en a deux, en fait, il y a deux questions. Comment on vit le pacte au quotidien? Donc ça, c'est plutôt là, ça va plutôt m'amener à répondre du point de vue de mon quotidien et dans mon collège. On le vit comme une mise en concurrence, en fait, des profs entre eux. Et pas que des profs, puisque des personnels de la vie scolaire peuvent également signer le pacte. Pourquoi? En fait, les missions que tu as citées, l'orientation professionnelle, l'aide aux devoirs et aussi le remplacement, c'est des missions qu'on effectue déjà. Enfin, c'est pas des trucs en plus, en fait. Du coup, ça va créer de la concurrence entre les profs qui signent le pacte et qui vont faire l'orientation professionnelle et les profs qui font l'orientation professionnelle mais qui ne signent pas le pacte. Parce que les missions vont rester les mêmes, donc, comme vous l'avez compris, mais non payées de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites de l'orientation professionnelle en étant prof principal de 3e actuellement, vous touchez une indemnité de l'ordre de, on va dire, 1 000 euros par an environ. Si vous signez le pacte, c'est plus 1 000 euros par an, c'est 1 750 euros par an. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Mmh. Après, d'un point de vue syndicaliste purement simple, donc là, c'est plus la prof... du collège qui répond, c'est plutôt la syndicaliste à Sud. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une fausse valorisation de salaire, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, à l'époque, il y a 6 mois, c'est comme ça qu'il avait présenté. C'est, en fait, le but, c'est de détruire le statut. Nous, on est des enseignants qui ne signons pas de contrat avec notre supérieur hiérarchique, hein, puisqu'on est dans la fonction publique d'État, ce qui sous-entend qu'on a un certain nombre de missions, comme le bien-être physique et mental des enfants, comme leur émancipation et l'apprentissage. Et pour ça, en fait, ça, ces missions-là, elles sont générales, elles ne vont pas être découpées à la tâche. En signant un contrat, on est amené à être rémunéré pour des tâches précises. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Si, ça devient un peu comme des objectifs commerciaux, quoi.
C'est ça. En fait, c'est des tâches découpées. Donc, on va de plus en plus préciser ce qu'on doit faire, hein, ce qui nous lie aussi, ce qui nous attache aussi et ce qui nous restreint dans notre liberté pédagogique. Et ce qui va, en fait, détruire, émietter le statut petit à petit. Parce qu'on ne peut pas, en fait, faire une loi en disant « on abolit le statut de fonctionnaire ». Ça serait trop gros. Donc, plutôt que faire ça, on va aller créer des décrets, des arrêtés, mis les uns dans les autres, qui ensemble forment le pacte enseignant et qui, en fait, contractualisent la fonction publique. Voilà.
D'accord. Waouh, c'est hyper intéressant d'avoir ton retour, parce que c'est vrai que, bah, du coup, je me suis tapé tout le truc EduGouv, machin, qui parlait du pacte enseignant. C'était fun. Et après, j'ai lu quelques articles de professeurs, et bah, moi, j'avais vraiment surtout l'impression que c'était de la grosse lâcheté, à nouveau, de la part de l'État, et de faire porter sur le dos des enseignants... Le manque de moyens, le manque de professeurs et vous faire porter toujours plus de casquettes et de vous faire travailler toujours plus, de vous demander d'assurer leurs erreurs à eux, quoi. Mais là, tu nous montres vraiment un autre versant.
Et du coup, tu parles de détruire le statut de fonctionnaire. C'est une réforme, du coup, ce pacte enseignant qui s'inscrit dans une longue lignée de réformes qui surviennent parfois même plusieurs fois dans une même année. Et du coup, si on dézoome un petit peu, ça a des conséquences sur nos vies à toutes et tous, pas que la vie des profs et pas que la vie des enfants. Et du coup, comment, selon toi, ce recul du système scolaire, il impacte l'ensemble de la société à court ou à long terme ?
Alors, je vais prendre... Ta question m'inspire directement le point de vue des parents qu'on a rencontrés récemment, là, cette semaine, dans mon collège. Qui nous montre que le décret pacte, il a un impact sur toute la société, comme tu dis très bien. Les parents, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que en fait, ils sont épuisés d'essayer de comprendre les différentes réformes. Ils sont épuisés de voir que en fait, les profs, ils sont remplacés de manière complètement, à la dernière minute et de manière sectionnée, etc. Donc pour eux, ça les épuise, ça leur demande d'anticiper des gardes. C'est plus compliqué de justifier après auprès de leurs employeurs leur absence pour aller garder leurs enfants, notamment dans le premier degré. Et après, sur l'ensemble de la société, c'est des écarts qui se creusent. Des écarts qui se creusent entre les enfants qui n'ont pas les mêmes moyens. Par exemple, là, en dehors du pacte, hein, mais depuis 5 ans, le redoublement n'est plus un droit au collège. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'est plus en mesure de dire, bah, là, cet enfant, il a besoin de plus de temps. Il a besoin de redoubler, d'avoir une équipe pédagogique différente, d'avoir une deuxième chance. Bah, ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui parce que les classes, elles sont surchargées et parce qu'on va aller faire reposer ça sur les parents en disant, bah, de toute façon, les parents, ils ne veulent pas que leur enfant redouble. Mais en fait, c'est juste que nous, on ne se donne plus les moyens de le faire. Et du coup, sur la société, l'impact que ça, c'est qu'on a des enfants qui sont parfois diplômés, hein, qui ont leur brevet à la fin de l'année, à la fin de l'année troisième, mais qui n'ont pas en fait pu grandir à leur rythme et qui ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés, de ne pas avoir été respectés dans leur rythme, quoi. Enfin...
Ouais, ça me rend dingue parce que là, tout ce que tu dis, le plus droit au redoublement,
ouais, je savais pas.
Tous les détails sur le pacte enseignant, moi, j'en ai pas entendu parler. Alors peut-être que je scrute pas beaucoup les actus sur l'éducation, mais bon, je pense qu'un peu comme tout le monde, le seul truc dont on a entendu parler pendant à la rentrée, là, c'était l'histoire de l'abaya. Ouais, et qui passent leur temps. Je sais pas si c'est une volonté du gouvernement de noyer le poisson en nous mettant des grosses actus comme ça dont vont s'emparer les médias et qui vont omnibuler tous les journalistes. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui passent un petit peu très rapidement pour qu'on se penche pas trop dessus et qu'il y a que les profs et les premiers concernés qui sont au courant, quoi.
Alors, le redoublement fait pas partie du pacte. Enfin, le fait oui, que ce soit plus oui, en droit, oui. Ça fait pas partie du pacte, mais c'était il y a quelques années. Hein. Mais sinon, je pensais à une autre loi dont elle parle dans le livre, Véronique Decker, qui est la loi RILAC. Et pour le coup, ça, c'est dans le premier degré. Parce qu'à Sud, on s'intéresse donc à toutes les situations, à tous les degrés dans l'éducation nationale, hein, tous les statuts. Et la loi RILAC, elle dit que les enseignants, désormais, donc ne sont plus décisionnaires ensemble en conseil des maîtres, mais que toutes les charges de direction et de décision reposent uniquement sur la directrice d'école. Et du coup, de la même manière que le pacte dans le second degré, ça permet en fait, enfin ça empêche, pardon, ça empêche les enseignants et les enseignantes d'exercer ce qu'elles croient juste dans leur métier et d'être soumis encore plus à un lien hiérarchique, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est toujours plus de hiérarchie et ça revient aussi à ce que tu disais, la mise en concurrence. C'est vraiment s'éloigner de la vision de Véronique Decker sur une vision de l'école publique coopérative et créative.
Quand tu parlais tout à l'heure des parents, ça m'a fait repenser à une des anecdotes que Véronique Decker raconte dans son livre, à un moment où elle est prof du coup en primaire et où elle est directrice et que une enseignante manque depuis plusieurs semaines et que le rectorat n'envoie pas de personnes pour la remplacer et dit qu'il y a personne pour la remplacer. Et au bout d'un moment, en fait, il y a une maman de parents d'élèves qui arrive avec une tante quechua et qui dit à la directrice, en fait, là, je vais camper sur l'école jusqu'à ce que, enfin, sur le toit de l'école jusqu'à ce qu'on ait un remplaçant ou une remplaçante pour nos enfants. Et en fait, la maman a aussi appelé les journalistes et du coup, elle pose sa tente et tous les journalistes affluent. Et en fait, je sais plus si c'est en fin de journée ou le lendemain, le rectorat envoie une personne pour faire le remplacement parce que ça a eu soudainement beaucoup de visibilité par rapport à ce que ça avait juste avant, quoi, de mobiliser les médias.
Moi, je voulais revenir l'autre aspect du livre qui était la joie d'enseigner, parce que quand même, justement, les médias...
On voulait en venir, oui, complètement. Parle-nous de ça.
Les médias, en fait, commentent un peu, parce que des interventions de profs, il y en a plein. La souffrance des profs n'est pas du tout invisibilisée comme la souffrance de plein d'autres personnes opprimées, racisées, voilà. Enfin, je veux dire, on se fait entendre quand même, mais du coup... quand on demande à des gens dans la rue, à votre avis, la souffrance des profs, elle vient de quoi? Elle vient de qui? La première réponse qu'on a, c'est les élèves. Les élèves sont insupportables, les incivilités des élèves. Moi, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que des parents d'élèves me demandaient comment s'était passée ma rentrée, si les élèves n'étaient pas trop compliqués. Donc, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est moi, c'est les élèves, c'est toujours une joie de les retrouver. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Moi, ma joie d'enseigner, elle me vient des élèves, en fait. Elle me vient des moments de classe. Et, la souffrance que je peux avoir, elle me vient de l'administration. Et moi, un exemple concret comme ça que j'ai, c'est que J'ai testé un truc là avec des élèves de 6e. C'est de leur faire montrer des personnages. En fait, je vais me déguiser en classe en arrivant le matin, enfin quand je les vois, quoi. Et j'incarne un personnage historique. Et en fait, eux vont poser des questions aux personnages. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'ils sont tellement à fond qu'ils vont remplir l'interview d'eux-mêmes, prendre des notes, alors que moi, je ne suis plus du tout dans mon rôle de prof, je suis vraiment déguisée, quoi. Et une fois, il y a une élève qui a crié en classe, oh, « Mais c'est cramé que c'est la prof !» Et du coup, c'est marrant parce que je me dis, bah, ils sont tellement dans le jeu qu'ils s'imaginent vraiment qu'il y a un personnage, quoi.
Oh, c'est trop bien. C'est...
Ouais, et ça leur permet, en fait, de gagner en autonomie par rapport à l'écriture. Ça leur permet... De donner en fait du corps et du vivant à l'histoire, quoi. Enfin, et en fait on a élaboré un rituel personnage même avec le prof de français. Donc, on fait ça en équipe maintenant et enfin c'est chouette, et puis les élèves adorent ça, donc ils en parlent autour d'eux, enfin. Donc on a plein de choses comme ça, et d'ailleurs je me suis dit en lisant ce bouquin, tiens, je vais continuer mon journal d'enseignement, parce que du coup pour raconter tout ça. Parce que bah, c'est pas connu, toutes ces petites choses, en fait, qui mettent du baume au cœur et qui fait que les élèves, ils se souviennent de leurs moments de classe comme des moments de joie collective, quoi.
Ouais. Ouais, carrément. Ça me fait penser à un moment, elle cite un élève, elle lui demande comment s'est passée sa journée, s'il a bien travaillé, et l'élève lui dit ma journée s'est super bien passée, j'ai fait que des trucs bien, j'ai pas travaillé. Et c'est pas vrai, en fait, il a appris beaucoup de choses. Mais comme tu dis, il retient que du positif, en fait, parce que ils y ont mis du cœur et de la qualité, ces enseignants. C'est des beaux moments que tu nous racontes. C'est super chouette d'imaginer. Et c'est vrai que c'est un chouette livre. Continue ton journal. C'est une très bonne idée. C'est un chouette livre.
On te réinvitera quand il sera apparu, comme ça fera une deuxième émission, mais avec ton livre et tes anecdotes.
Ouais.
Et c'est vrai, moi je sais pas si tu le ressens, mais tout à l'heure tu parlais de la souffrance des professeurs, etc. Que dans la rue, c'est pas forcément quelque chose que tu as fait, mais que la souffrance des professeurs est connue. Moi quand même, Véronique Descaires, à un moment, elle parle de la moquerie face aux fonctionnaires et cette haine des fonctionnaires. Qui, je trouve, est vraiment... Enfin, comme tu disais tout à l'heure, je trouve qu'on se... toutes ces réformes et cette maltraitance de l'État poussent tous ceux que l'école rassemble à se détester entre eux, quoi. On déteste les fonctionnaires, on déteste les professeurs de nos élèves, on déteste les parents, on déteste les élèves, et on déteste jamais la bonne personne, en fait. Et une vraie moquerie, ouais, des fonctionnaires, et c'est vrai que je l'ai ressenti, enfin, ça m'a un peu... fait quelque chose, parce que je me suis dit que c'est quelque chose dans lequel je pouvais m'engouffrer assez facilement aussi, aller me laisser aller à la moquerie par rapport aux fonctionnaires, au fait qu'ils aient beaucoup, beaucoup de temps libre, qui sont flemmards. C'est pas des choses que je pense forcément, mais c'est des choses qu'on m'a tellement rabattu que presque ça sortirait tout seul. C'est quelque chose que tu ressens aussi. Est-ce que c'est... Alors, tu la dénonces, cette moquerie, ou...
Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, c'est assez intéressant comme question. En fait, pour moi, ce côté fonctionnaire fainéant, pour le résumer, pour moi, c'est une vision des classes supérieures. C'est-à-dire que quand j'ai enseigné, parce qu'en fait, j'étais remplaçante avant, là, je suis en poste depuis 3 ans, mais avant, j'étais remplaçante, donc j'ai fait pas mal de collèges différents, et j'ai remarqué que le regard des parents sur les fonctionnaires chez les classes supérieures dans des collèges favorisés, c'était « Oh là là, mais vous faites rien, vous êtes feignants. » Moi, j'ai eu des mails de parents qui me disaient « Vous aviez tout le mercredi après-midi pour publier les notes, vous ne l'avez pas fait, etc. » Alors que quand j'ai commencé mon premier poste donc à Trappes, c'était très différent. C'est-à-dire que les parents des classes populaires sont très, très, très reconnaissants quand le boulot est bien fait, hein, parce que des fois, voilà, il y a aussi des problèmes, il y a aussi des manquements, hein, il ne faut pas non plus le cacher. Mais quand le boulot est bien fait, et surtout quand ils sentent que derrière... On adore notre boulot, etc. Ils et elles sont ultra, ultra reconnaissants. Et moi, on m'a déjà plusieurs fois dit merci, on m'a fait des câlins. Enfin, je veux dire, on m'a offert des cadeaux à bouffer. Enfin, je veux dire. Et donc, ce discours de fonctionnaire fainéant, en fait, c'est l'idéologie dominante pour moi, hein, des possédants, des riches, qui déteint sur l'ensemble, mais ce n'est pas la vision majoritaire. Mmh. La vision des classes populaires, c'est heureusement qu'il y a les profs, parce qu'ils savent. Ils savent qu'en fait, malgré le fait que l'école, parfois, soit maltraitante, parfois, effectivement, soit violente hein, dans l'institution, qu'il y a en fait, des personnes qui ont cœur à faire grandir, à faire instruire leurs enfants. Voilà. Et ils savent que malheureusement, enfin, ils savent que la fonction publique, c'est un des derniers, c'est un dernier rempart contre le creusement des inégalités, etc., etc. Quoi. Voilà.
Ça marche. Merci beaucoup. Hyper intéressant comme, comme complément.
C'est ouf aussi de se dire que malgré la situation, des profs comme toi ne partent pas la passion de l'enseignement et l'envie d'enseigner. Et je me dis que c'est peut-être aussi là-dessus que se repose un peu le gouvernement, se dire de toute façon, il y aura toujours des profs, quelles que soient les conditions, ils ont la passion de faire ça, ils ne vont pas abandonner les élèves. Quoi.
Ah oui, et d'ailleurs, c'est très problématique. Nous, c'est tout le temps compliqué parce que quand on doit expliquer aux parents que là, il faut dire non, que en fait, non, on ne fera pas le boulot, parce que des fois, c'est quand on est amené à faire des grèves, quand on est amené à refuser de faire passer des oraux blancs pour des gamins, etc. Il faut expliquer aux parents, il faut dire ben non, en fait, là, nous, on refuse de faire boulot parce que tant qu'il y aura toujours effectivement des profs qui accepteront cette maltraitance généralisée-là, ça ira pas dans le bon sens, quoi. Donc c'est vrai que c'est il faut peser le pour et le contre et sans être dans un corporatisme des droits enseignants en explicitant quand même aux parents que oui l'éducation nationale est une institution qui peut être violente mais que nous à l'intérieur de cette institution on essaye de faire avancer les choses et malheureusement on n'a pas le choix que de le faire dans l'institution parce que c'est pas en allant dans les écoles privées. Il y a beaucoup hein, d'écoles Freinet, par exemple, qui défendent une pédagogie émancipatrice basée sur le collectif et qui ont des très petits nombres d'élèves dans la classe qui permettent de le faire. Mais ce sont des écoles qui sont dans les milieux favorisés, dans les milieux bourgeois. Et en fait, c'est pas dans ces écoles-là que vous allez transformer la vie des classes populaires, quoi.
Et ben, merci beaucoup, Candide. Ce sera le mot de la fin pour la partie discussion. On se retrouve tout de suite pour la partie librairie avec quelques petites références pour continuer d'explorer le sujet. Mais avant ça, on va passer le spleen des petits de Stupéflip. Ça nous ramènera quelques années en arrière.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir, s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir, s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole, sous la pluie toute trempée. Dans sa poche des billes, quelques kiri écrasé, l'en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bons becs et des chocs aux rêves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépito. Il fait presque nuit, une lumière glauque dans le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle. Il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak qui veut s'échapper. Voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle l'ait pas oublié. Dans la cour, ses crades, odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres l'agressent, serre les dents et snob les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de
de chances de s'en sortir s'ils ont nos marteaux. Plus dure sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sans le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.
C'était le spleen des petits de Stupéflip. Vous êtes de retour dans les Arpètes, l'émission littéraire et militante. Nous avons parlé éducation avec le livre de Véronique Decker et notre invitée Candide, prof d'histoire géo. Pour terminer cette émission, comme d'habitude, on vous propose quelques objets culturels pour continuer d'approfondir le sujet.
Et Lilia nous a missionné pour nous faire part de ses conseils lecture et films, parce qu'elle était triste de ne pas pouvoir être là et qu'elle avait quand même, comme toujours, beaucoup de conseils, de recommandations dans son sac. Elle nous conseille donc Chagrin d'école de Daniel Pennac, qui est un mi-essai, mi-autobio, qui raconte son passé de cancre et comment il a eu malgré tout envie d'enseigner. Il critique l'idée de l'école universelle et élitiste qui représente la majorité du système français. Et d'après Lilia, toujours, c'est un chouette essai, surtout quand on connaît ses personnages de Camus ou Benjamin Malocène dans ses romans.
Est-ce que toi, tu avais des recommandations à nous faire part, Candide ?
Ouais, carrément. Carrément, puis ça viendra compléter ce que j'ai pas eu le temps de dire, notamment dans l'entretien. Moi, je tiens entre les mains un petit livre violet très très joli chez Point qui s'appelle La puissance des mères, paru il y a 4 ans par Fatima Wasak. Fatima Wasak, elle est coprésidente d'un syndicat de parents d'élèves, et en fait, dans ce bouquin, en fait, elle explique sa souffrance en tant que personne arabe, femme, race, sa souffrance en tant que parent, le fait qu'elle est très peu entendue finalement par les profs qui sont tous majoritairement représentants, parents de bourgeois, blancs, etc. Et elle essaye en fait de faire avancer l'école sur le chemin de la tolérance et puis d'intégrer les aspects révolutionnaires, écologiques, féministes dans l'école. Et enfin voilà, j'adore cette nana. Moi, je trouve qu'elle est, enfin ce bouquin, il est hyper émouvant. Elle raconte son point de vue de parent sur l'école, quoi. Et c'est cool.
Ça a l'air super chouette, ouais.
Ouais, ça a l'air trop bien. Sinon, nous on avait aussi à recommander, toujours de Lilia, hein, le film Les Héritiers de Marie Cassie mention Char, si je prononce bien, avec Ariane Ascaride, qui joue une prof qui se retrouve à enseigner à la pire classe du lycée de Créteil. Tous les profs ont lâché l'affaire, mais elle décide de les lancer dans le concours national sur la résistance et la déportation. Et les élèves qui ne croyaient pas en eux-mêmes vont en sortir changés. Donc elle nous spoile un peu, mais apparemment, c'est très sympa.
Ah oui, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, ouais. C'est marrant, c'est une grande aventure, ce film.
Ah, cool, ça donne envie. Est-ce que tu pensais à d'autres choses à nous partager ?
Malheureusement, de manière générale, je trouve qu'à part ce film-là, les autres sont assez... Les autres caricaturent, en fait, la vision du métier. Donc, du coup, malheureusement... Après, sinon, il y a un bouquin, pour le coup, du point de vue enseignant, mais plus pédagogique, qui s'appelle Pédagogie explicite au pluriel, et qui raconte un petit peu tous les essais pédagogiques des enseignants dans les quartiers populaires pour transmettre et expliciter les savoirs. Et en fait, c'est rare en pédagogie qu'on ait des bouquins qui soient pas du charabia, quoi, qui soient pas la didactique de je sais pas quoi, et qui présentent des situations de classe concrètes, et en plus du point de vue de la lutte des classes, c'est le cas de le dire. Du coup, c'est le bouquin qui m'a formée, en fait. Mais bon, c'est plutôt du point de vue pédagogie là.
Ah, mais c'est quand même super intéressant, hein. S'il y a des professeurs ou des gens qui aimeraient bien l'être, c'est super intéressant. Ouais, donc des exemples concrets de méthodes, de techniques créatives, coopératives, etc. quoi.
Oui, pour expliciter les consignes. Enfin voilà, il y a des gamins, ils arrivent, ils savent pas. Enfin, en sixième, par exemple, quand je demandais, je me rappelle une fois. Bon bah alors tu raconterais comment toi l'histoire des jumeaux Rémus et Romulus, donc la fondation de Rome là, vous savez. Donc comment raconte, et mais ça veut dire quoi raconter? Enfin voilà, et ça m'a marqué, et en fait c'est un peu des techniques d'explicitation des consignes, parce que en fait l'école c'est tout un package de langage qui accroît en fait les inégalités. Et donc l'école comme ça est plein de normes de langage, de normes qui sont imposées aux mots mais qui leur en sont pas expliquées, explicitées quoi, alors que c'est notre taf quoi. Voilà, et que de manière simple, en plus c'est dit de manière simple, donc c'est accessible pour les profs, les jeunes profs quoi, les profs qui arrivent et qui
pour
qui les bouquins de pédagogie et didactique sont imbitables en fait.
Elle en parle beaucoup du langage, Véronique Decker, dans le livre.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Mais...
Bah, je me demande si ça ne fait pas aussi partie des préceptes dans l'enseignement Freinet. Quand elle parlait, moi j'ai eu dans ma partie un moment où elle explique pourquoi elle réprouve l'utilisation du pronom « on » pour parler de la classe de « on rentre en silence, on s'assied, on sort les cahiers, on ne crie pas ». Et de pourquoi elle va plutôt utiliser le je, le nous, le tu, pour vraiment identifier qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi, et pourquoi on crie pas dans la cantine, mais par contre les adultes ils ont le droit de crier dans la cantine, enfin pour sortir de ce genre de d'incompréhension en fait de la consigne, et de vraiment responsabiliser les élèves en utilisant un je, un nous, un tu.
Très intéressant.
Oui. Voilà. Mais je crois que, enfin, toute façon les pédagogies alternatives comme Freinet, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles s'inspirer, même pour l'éducation des enfants à la maison, entre guillemets, enfin, je sais pas, dans le domaine de la parentalité. Bref, c'était ma petite parenthèse. Et sinon, il y avait un truc que j'aime, une petite série de BD que j'aime bien. J'adore l'Instagram Matin Quel Journal. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte qui propose plein de petits strips. Je crois que c'est toutes les semaines, voire peut-être tous les jours. Et il y en a une qui est scénarisée par Sarah Lecoq et dessinée par Sandrine Deloffre, qui s'appelle La Jungle, et qui est une série sur le harcèlement scolaire que je trouve vraiment très bien. Et qui, ils sont d'ailleurs en train de la rediffuser actuellement, la republier actuellement, parce que du coup, on est en période de rentrée scolaire et que les chiffres qui parlent du harcèlement scolaire aujourd'hui ne diminuent pas, et ça va même en s'aggravant. Et on voit de plus en plus de cas de suicide d'enfants, malheureusement, parce que ils n'ont pas été pris au sérieux par les enseignants ou par les encadrants ou par le rectorat aussi, des fois. Voilà, des histoires tragiques. Eh bien, on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup, Candide.
Merci à vous.
Je termine sur une note pas très joyeuse, désolée. Ouais. Ah, c'est horrible ce que je viens de dire.
Mais non, c'est une réalité aussi. Hein. Merci Léo, qui était à la technique.
Fidèle à son poste.
Merci beaucoup Candide, j'espère que tu as passé un bon moment.
Oui, bah, partager ça, c'est toujours, ça fait du bien, et puis c'est essentiel, je trouve.
Oui, c'est vrai. Que ça m'a fait du bien de pouvoir mettre des vrais mots, des vrais exemples sur une situation qu'on connaît trop, mais pas en détail.
On vous rappelle que, comme d'habitude, toutes les références seront disponibles sur la page de l'émission sur prune.net avec le podcast. On se retrouve pour la prochaine, le 4 novembre, pour une émission sur, normalement, les parentalités queer avec le livre « Faire famille autrement » et nos invités de Nozig.
Oui.
Et on se quitte sur le morceau Éducation nationale de Grand Corps Malade.
Au revoir.
Au revoir.
Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est pas chiante. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants ? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac, c'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.